Alors bienvenue, bienvenue à vous tous pour cette deuxième petite étude biblique sur les quelques femmes en fait. Alors là j'ai mis Léa et Rachel, j'aurais pu mettre Jacob, Léa et Rachel, mais en fait on va le voir dans le texte, Jacob il n'est pas formidable en fait. Mais c'est souvent, si vous voulez, c'est pareil avec la génération précédente, Isaac il n'est pas formidable et c'est Rebecca qui est formidable. Alors j'aurais pu mettre, faire l'épisode sur effectivement Isaac, Rebecca et puis Ésaü et Jacob, mais Isaac, lui, il était vraiment dans le visible, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à Ésaü parce que Ésaü rapportait du gibier. Avec du gibier, on pouvait faire des bons plats, je ne sais pas comment il faisait ça, on peut faire des ragoûts de chevreuil, je ne sais pas très bien ce qu'il faisait, c'est délicieux, c'est vrai d'ailleurs. Mais en fait, il s'intéressait donc surtout à Ésaü. Et puis Jacob, pour lui, c'était un peu méprisé. Alors que Jacob, dans cette histoire d'Ésaü et Jacob, ben Rebecca voit tout de suite que c'est Jacob qui doit hériter de la bénédiction. Alors, comment comprendre ça? Cette histoire d'Ésaü et Jacob est absolument épouvantable parce que Jacob, avec l'aide de sa mère, va se débrouiller pour prendre son droit d'aînesse à Ésaü, avec des fraudes, avec des ruses, et finalement hériter de la bénédiction. Alors souvent cette histoire a été lue, c'est ce que je vous propose un petit peu dans l'introduction de ce texte, c'est comme, c'est pas une leçon pour apprendre à gruger nos voisins, en particulier pas notre frère, pour essayer de lui piquer son héritage, ou d'essayer par la ruse d'arriver à prendre l'avantage sur les autres. Mais c'est l'idée que nous sommes tous Ésaü et Jacob, et donc que ça exprime deux dimensions de l'humain, Ésaü exprimant plutôt la dimension animale, la dimension physique, la dimension de la force qui va à la chasse, qui ramène du gibier, un peu l'homme de Cro-Magnon en nous, ou la femme de Cro-Magnon. Parce que ça existe aussi, non? Je ne sais pas, sûrement. On parle de l'homme de Cro-Magnon, mais il va y avoir une femme de Cro-Magnonne, je ne sais pas. Et puis, quoi?
C'est l'homme avec un H majuscule.
C'est l'homme avec un H majuscule, voilà. Et puis, Jacob, ça représente, nous dit la Bible, donc ce passage avec la naissance de ces deux jumeaux, ça représente l'homme parfait. Donc, on sait bien, je veux dire, les auteurs bibliques n'étaient pas débiles. Ils savaient très bien qu'un humain parfait, ça n'existe pas. Donc ça montre bien que dès l'origine de ces textes, on exprime déjà l'idée de la perfection de l'humain, si vous voulez. Ce qui est parfait dans l'humain, c'est-à-dire sa dimension spirituelle, la dimension qui mérite vraiment qu'on le mette au-dessus, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est ce qui en nous est source de bénédiction, ce qui en nous est béni, ce qui en nous est du spirituel, est de la capacité à aimer, la capacité à... Vraiment, ce qui en nous est notre moi profond, on pourrait dire, hein, notre identité profonde, notre personnalité créatrice, enfin voilà. Donc c'est cela, si vous voulez, qui doit prendre le dessus. Et quelquefois, nous le savons, on est obligé de ruser avec notre dimension physique et matérielle pour que ça soit le spirituel et l'amour en nous qui prennent le dessus. Donc on en arrive là, finalement. Hein. C'est-à-dire que quand on arrive à ce récit, Jacob, il fuit Ésaü, qui a pris moyennement bien de se faire prendre sa bénédiction et son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Il prend ça moyennement bien et donc il menace de tuer Jacob. C'est la difficulté dans notre existence, que l'animal ne tue pas le spirituel. Si c'est l'animal qui dirige, il est capable de tuer le spirituel, comme avec Caïn et Abel. Par contre, si c'est le spirituel qui prend le dessus, bon, il ne faut pas non plus que le spirituel abuse, comme dans certains, mystiques, ou ascètes, trop ascétiques. Mais le spirituel, je dirais, s'il est un peu, s'il est bien nourri, s'il est bien compris, il peut très bien ne pas écrabouiller, ne pas écraser l'animal en nous, la dimension physique, mais qu'il y ait réconciliation entre les deux. Donc finalement, ce cycle avec Jacob, il va se terminer par la réconciliation avec Ésaü. Mais là, on n'en est pas encore tout à fait là. Il fuit Ésaü. Et il y a cet épisode formidable avec l'échelle de Jacob, ce rêve, cette bénédiction de Dieu, où Dieu lui, le bénit, Jacob, lui disant, bon, ben, je t'accompagnerai quoi qu'il se passe. Il arrive là, à cet épisode, donc, il est pas mal du tout au début, on va le voir dans le début de ce récit, mais assez rapidement, c'est ces deux femmes qui deviennent finalement vraiment maîtres du jeu, et Jacob ne devient plus, j'allais dire, qu'un étalon reproducteur. Et à la fin, il disparaît complètement. Quoi. Si, hein, je ne sais pas si vous avez...
11 ou 12 enfants, je
voilà, il a une douzaine d'enfants, voilà, plus une fille.
Alors là, c'est un étalon, oui.
C'est un étalon.
C'est un chaud
lapin.
12 enfants.
Il a 12 garçons et une fille. C'est mon père qui me racontait qu'il interrogeait un de ses copains. Et alors, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, ben... C'était quelqu'un, je veux dire, je ne vais pas dire du mal des jours du midi, c'était quelqu'un de Marseille. Il dit, ben, j'ai 4 enfants et une fille. C'est ce qui se passe.
C'est ce qui se passe. C'est tout important. Jacob, tu as 12 enfants.
Non, il a 12 garçons et une fille. Il va y avoir Dina aussi, quand même, qui arrive au milieu. Il est ballotté, il est maître du jeu un peu au début, et puis ensuite, eh bien, ça glisse.
Oui, et alors est-ce qu'on, après cette étude publique très difficile, est-ce qu'on saura pourquoi l'intérêt du fait qu'il n'y ait pas de choix, de discernement à faire ?
Peut-être que ça vient nous dire que ben, c'est comme pour Isaac et Rebecca, pourquoi Isaac, comme ça, est si nul, et que c'est Rebecca qui est vraiment prophétique, qui... C'est elle hein, qui se tourne vers Dieu, qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai deux peuples en moi, comment réconcilier ça ?» Et donc c'est elle qui se tourne vers Dieu, qui discerne, qui est vraiment le rôle, je dirais, spirituel, prophétique. Eh bien ici, c'est un peu pareil, dans un sens, Jacob n'est pas formidable, et il représente l'homme parfait, mais l'homme parfait quand il est avec ses femmes, finalement. Et on voit qu'il est un peu, qu'il comprend pas bien la chose, c'est-à-dire qu'il est amoureux de Rachel, alors que finalement c'est Léa qui est formidable. Donc si vous voulez, il passe encore un peu à côté du truc, peut-être c'est pour nous dire, oui.
Il a mal choisi,
il a mal choisi dans un sens. Il a le droit de choisir Rachel, sauf qu'il choisit la pin-up.
Et,
oui, il choisit la pin-up, et alors que c'est l'autre qui était... donc il faudrait rentrer dans le sujet, mais si vous voulez, Rachel, elle est belle pour être vue, c'est la top modèle, et Léa, elle a des beaux yeux, elle a des yeux pour voir, pour bien voir. Et donc finalement, elle exprime souvent dans ce que disent les exégètes, les savants, surtout les savants juifs, c'est que Léa, ça représente... plutôt la dimension spirituelle, la dimension de la beauté du regard, de beauté pour voir le monde, pour voir et c'est elle qui va être à l'origine de Judas, c'est à l'origine donc de David, donc du Christ, c'est elle qui va être à l'origine de Lévi, c'est-à-dire de la dimension de religion, de relation à Dieu. Et ses premiers enfants, les quatre premiers qu'elle va avoir, ça représente vraiment des bonnes dimensions. Alors que Rachel, elle est pas terrible, elle est égoïste, elle est quoi, vous voyez ?
Et nous, la question que je me posais en préalable, est-ce qu'il faut oublier, ce que j'arrive pas à oublier, qu'en fait, ils sont cousins. Alors tout ça me gêne, toutes ces alliances.
Ces alliances, ces cousinades, oui.
Ben oui, parce que là, en fait...
C'est un peu... Ah, ils sont polygames, en plus, oui.
Oui, c'est tout ça qu'il faut oublier, il faut garder juste le récit pour sa signification.
Voilà, ils se marient tous entre cousins parce que déjà Rebecca, elle était déjà cousine avec Isaac. Et puis Jacob, il va épouser sa cousine germaine, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a la consanguinité un peu limite, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai que c'est pas très bon au point de vue de l'hérédité. C'est quand même risqué, effectivement. Hein. Mais non, mais moi je dirais, si vous voulez, c'est que globalement... Je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai appelé Léa et Rachel, c'est que on dirait c'est très patriarcal, voilà, c'est Abraham, Isaac, Jacob, mais sans les femmes, voilà. Encore Abraham, Sarah, elle n'a pas tout à fait le beau rôle. Bon, mais ensuite, Isaac, c'est vraiment Rebecca qui a la dimension spirituelle. Jacob, il a des beaux épisodes dans sa vie, alors qu'Isaac, il est plus effacé. Jacob, il y a de très beaux épisodes, hein, avec l'échelle, avec le début de ce texte, avec ensuite le combat avec Dieu. Il y a la réconciliation, il y a des très beaux passages. Mais globalement, sans Léa, finalement, sans son amour pour Rachel, sans ces femmes, ce ne serait pas terrible. Donc ça nous invite, voilà, justement, à considérer l'humanité comme homme et femme et à ne pas mépriser, la deuxième moitié de l'humanité qui est la partie féminine, même si c'est très patriarcal. Là, vraiment, c'est les femmes qui sauvent l'homme, j'allais dire.
Enfin, à la lecture de, au début de je commence à lire la Bible, mais je considère que la Bible, c'est la représentation à l'encontre de pratiquement tout ce qui a été dit, c'est la représentation d'un système matriarcal et patriarcal en creux. C'est-à-dire que si on reste avec une, c'est effectivement des histoires d'hommes, mais dans la réalité, c'est un système matriarcal.
D'accord. Oui, alors c'est vrai que les femmes ont un rôle, et là, à mon avis, elles ont effectivement un bon rôle. Alors, cela dit, Léa et Rachel, ça représente un peu deux dimensions de l'humain, mais c'est comme souvent, si vous voulez, avec les pères de frères et sœurs, ou les trois frères, par exemple, frères et sœurs, par exemple, bon, je mettais Cain et Abel, ça représente deux dimensions de l'humain. Sem, Cham et Japhet, les enfants de Noé, ça représente aussi, si vous voulez, trois valeurs, trois dimensions. Ésaü, Jacob, j'ai déjà dit. Moïse, Myriam et Aaron, c'est souvent pris aussi, si vous voulez. Alors, Moïse et Aaron, on les connaît bien. Myriam, elle a un rôle de prophétesse aussi. Et c'est souvent ces trois personnes, ces trois frères et sœurs, aussi bien chez les rabbins, chez les commentateurs de la Torah, ou bien chez les pères de l'Église, c'est considéré comme trois dimensions. Alors Marthe et Marie aussi dans la Bible, si vous voulez, deux sœurs, avec Lazare plus effacé là aussi, mais surtout Marthe et Marie, ça représente la contemplation et l'action, ou bien les deux fils de la parabole du fils prodigue, ça peut représenter, si vous voulez, deux alliances, deux types de relations à Dieu, soit dans l'obéissance, soit dans la conversion et la grâce de Dieu. Donc c'est souvent, si vous voulez, il ne faut pas se dire Léa plus que Rachel, Rachel plus que Léa, il faut souvent voir ça comme deux dimensions, et avec Jacob, arriver finalement dans cette... cette famille. Bon, alors c'est vrai qu'ils étaient polygames à l'époque, hein. C'est pas pour dire que la Bible recommande d'avoir de faire du triolisme, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas quelque chose de facile, hein. Moi, je sais pas si en Afrique, moi j'ai vu plusieurs femmes qui avaient vécu la polygamie des femmes africaines. Ça arrive aussi dans les pays musulmans. Là, les jalousies, c'est même pire que ça, hein, si vous voulez, c'est absolument terrible. Hein. Non, c'est pas très facile à vivre, je sais pas très bien. Hein, la polygamie, je suis pas sûr que ça soit... on le voit avec Abraham, Sarah et Agar. Hein, c'est...
Oui, mais dans la Bible, il y a beaucoup de cas comme ça.
Beaucoup de cas comme ça.
Et puis, quelqu'un qui n'est pas initié aux Écritures, oui, peut être très choqué. Hein.
Mais il y a de quoi, oui, tout à fait. Il y a de quoi.
Aujourd'hui,
il faut replacer dans le contexte historique.
Oui, bien sûr, mais enfin.
Et puis je vous dis, c'est souvent des contes théologiques, et il faut voir plutôt des dimensions de l'humain que forcément voir une histoire littérale. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut voir plutôt, voilà, hein, Jacob, il va chercher. Il va chercher alliance finalement avec soit une belle vision de l'existence, du monde, et puis voilà, soit la beauté matérielle et physique. Donc il a un peu finalement entre une beauté du regard, une beauté de la conception du monde et de sa vie, ou bien voir l'esthétique. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'il faut choisir l'un plutôt que l'autre. Mais peut-être qu'il faut effectivement arriver à vivre en bonne entente ces deux dimensions, en privilégiant peut-être quand même Léa sur Rachel. Ça, c'est la question. Je ne sais pas. Non, la beauté du... En même temps, le côté esthétique, la beauté des œuvres d'art, le côté esthétique, la musique, la peinture, la gastronomie, c'est aussi une dimension, une belle dimension de l'existence. Donc voilà. Alors, peut-être on peut commencer à lire ce texte, il faut quand même avancer. Jacob se mit en marche et il s'en alla au pays des fils de l'Orient. Voilà. Donc on est un peu en exil, voilà, sur cette terre, on est de passage. Et alors les fils d'Orient, l'Orient c'est un peu le passé, donc il y a un peu un retour sur le passé. Ils retournent dans le pays d'Abraham, de Rebecca, ils retournent, il y a un retour sur l'histoire peut-être un peu, hein. Ils regardent, il y avait un puits. Alors là, les puits, si vous voulez, c'est symbolique, voilà. En tout cas, il y a une lecture symbolique. Bon, cela dit, c'est vrai que, si vous voulez, le puits dans ces milieux très secs, pour nous, l'eau, ça manque pas ici. Mais si vous voulez, dans les pays comme ça, très secs, les puits, c'était vraiment la vie. C'était vraiment fondamental.
C'est le lieu de rencontre.
Alors, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de mariage aussi. C'est là qu'il y a Isaac, donc le serviteur d'Abraham, qui va recruter une femme pour Isaac. Il va rencontrer Rebecca au bord d'un puits. Là, c'est la deuxième fois qu'il y a une rencontre amoureuse au bord d'un puits. Après, il y aura Moïse aussi, qui va rencontrer sa femme au bord d'un puits. Et puis après, il y a Jésus et la Samaritaine, qu'on verra un peu une autre fois. C'est encore une rencontre. Donc le puits, c'est les lieux du mariage, en fait. C'est la première image classique. Parce que le puits, c'est la source de la vie qui vient féconder la terre. Et donc, c'est une image de la femme, c'est une image de la Torah, c'est une image de la vie aussi. La Torah, c'est-à-dire de la Bible. C'est une image aussi de la réflexion, de l'intelligence. Parce que c'est le même mot, puits, ça veut dire aussi, c'est quelque chose qui est creusé. Et puis, en fait, c'est comme en français, creuser la question, ça veut dire chercher l'explication, le sens. Donc voilà, le puits dans la Bible, dans la lecture biblique qu'en font depuis 2500 ans les théologiens, les croyants, ça exprime la vie, ça exprime, parce que voilà, et puis ça exprime la Torah, la réflexion. C'est qu'il faut creuser pour aller chercher la source jaillissante qui est au fond et qui est de l'ordre de la bénédiction, qui est de l'ordre de la foi, qui est de l'ordre de la... du sens, qui est de l'ordre de Dieu, voilà. Il faut creuser au fond. Et c'est là qu'il faut abreuver les troupeaux. Alors bon, c'est vrai que, si vous voulez, il y a marqué, il y avait là trois troupeaux de brebis. Alors pourquoi trois, si vous voulez, vous pensez que les théologiens, les exégètes, les pères de l'Église diraient, alors qu'est-ce que c'est que ces trois? Pourquoi trois? Et c'est vrai que, si vous voulez, la Bible, quand il met comme ça un détail insignifiant, donc ça, c'est un des principes de lecture du Talmud, par exemple, mais que les pères de l'Église reprennent. Ils disent, quand il y a incohérence dans le texte biblique, c'est que forcément, il y a un sens allégorique. Et quand il y a insignifiance, quelque chose d'insignifiant, d'inutile, c'est que ce n'est pas inutile. C'est inutile au sens littéral. Mais forcément, ça a un sens, c'est pas là pour rien. Quoi.
Symbolique.
Un sens symbolique. Alors ensuite, lequel? Ah, ça c'est moins facile. Ça c'est moins facile. Mais c'est là, si vous voulez, que ça ouvre à une pluralité de sens. C'est comme pour Léa et Rachel. J'ai mis plusieurs interprétations possibles dans le petit papier, ça, mais c'est bon. Cette pluralité de sens, d'interprétation, d'allégorie autour des deux femmes, autour des noms des enfants, le sens de ce nom des enfants, ce que ça peut représenter comme fécondité dans notre existence, cette pluralité d'interprétation, elle est donnée à chacun, pas simplement aux théologiens, mais à chacun d'entre vous, en disant, ben moi j'y vois plutôt ça, parce que ça fait, ça me permet de comprendre mon existence, c'est ce qui a vraiment été fécond dans mon existence. Pour un, ça aura été... Tout d'un coup, un renouvellement d'un regard, par exemple, sur l'existence. Tout d'un coup, il a pu changer son regard et voir tout d'un coup quelque chose qui est vraiment, qui a pu être fécond dans sa nouvelle façon de vivre, de comprendre la fécondité de sa vie et de la vie. Ou bien d'autres diront, ben pour moi, ça a été l'esthétique, ça a été un moment de beauté qui m'a réconcilié, qui m'a permis de retrouver sens vraiment à la beauté de la vie, à la beauté des autres, machin. Ça dépend de chacun. Et donc, cette pluralité de sens, c'est fait pour. C'est pour ça que la Bible n'est pas résumée à un catéchisme, en disant, voilà, premièrement, il faut croire ceci, deuxièmement, le sens de la vie, c'est ça. Troisièmement, ce qui va être fécond dans votre existence, c'est ça et c'est pas autre chose. Vous allez faire 5 prières par jour et puis vous avez du temps à temps. Ben, ça y est, je commence à dire du mal des autres. Oh là là, ben, comment faire ? J'ai pas pu m'empêcher, donc je me retiens, je rembobine. Non, ben, c'est-à-dire, voilà, faut être un peu souple sur les genoux, si vous voulez, dans l'interprétation, dans le sens, pour chercher, voilà. Alors les trois, ça peut être quoi ? Alors vous pensez donc hein, que... Alors les rabbins, ils voient, ben justement, ils y voient Moïse, Myriam et Aaron, déjà. Voilà. Ça représente, alors Moïse, qu'est-ce que ça représente ? Moïse, c'est la dimension de la révélation de Dieu, le don de la loi. Moi, j'y verrais vraiment l'écoute de Dieu. Là. Myriam, c'est la louange, elle est connue pour chanter la louange de Dieu, hein, quand ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Voilà. Et puis Aaron, ben c'est la religion, c'est peut-être la recherche de Dieu, peut-être c'est le, je sais pas moi, c'est l'obéissance, peut-être je sais pas quoi. Enfin bon, on peut y voir ce qu'on veut là aussi, si vous voulez, se mettre à l'écho de ça. On pourrait voir, peut-être justement Abraham, Isaac et Jacob, les trois patriarches. Abraham, la foi, Isaac, bon, c'est peut-être un peu plus l'obéissance, et puis Jacob, c'est peut-être plus la bénédiction, je sais pas moi, ou le combat avec Dieu, ou je sais pas. Alors, on pourrait y voir la Trinité, bien que moi, je ne suis pas tellement trinitaire, hein, mais on pourrait y voir ça, hein, dire le Père, le Fils et l'Esprit, ouais, pourquoi pas. Hein, Dieu qui se révèle en tant que Père, en tant que Créateur, en tant qu'Esprit, c'est-à-dire souffle divin, hein, et puis le Fils en tant qu'accompagnement, voilà. Hein. Bon, enfin, bref. Les trois brebis se reposaient, car c'était là le puits. Hein, et la pierre de l'ouverture du puits était grande, elle n'était pas soulevable, hein, finalement. Il fallait que, on va le voir après, il fallait que tout le peuple se mette pour enlever la pierre, pour abreuver. Et Jacob, lui, il arrive, hop, et d'un seul coup, il prend la pierre, il la roule d'un coup, à côté, comme on débouche une bouteille, pom, et tout le monde peut boire. Donc ça représente, alors là les pères de l'Église disent, ça représente le Christ qui est vraiment à lui tout seul, ouvre la source pour tous. Et puis c'est aussi l'idée que voilà, avec Jacob, l'homme parfait, l'homme que nous sommes tous appelés à être, hein, l'homme avec un grand H, comme dit Francine, effectivement, homme comme femme bien sûr, on est appelé, vous voyez, avant c'était peut-être l'idée que c'était... tout le peuple qui fait alliance avec Dieu, et bien là, avec Jacob, finalement, à lui tout seul, il peut déboucher la source. Et donc, on pourrait dire que Jacob, il est un peu, j'allais dire, protestant libéral. C'est-à-dire, voilà, chacun est digne de réfléchir par lui-même, de déboucher la source pour lui-même et pour les autres. C'est l'autonomie de chacun, du plus grand théologien au plus simple, qui sait à peine lire. Hein. Et c'est vrai, en plus, hein, vraiment, hein, moi j'ai... J'ai rencontré, moi, quelqu'un, un prisonnier, là, c'était Pascal Nancy, quelqu'un, il est sorti de prison, il ne savait pas lire, hein. Et c'est un de nos paroissiens, c'était un ancien SDF, qui le recrute en lui disant, est-ce que tu sais que Jésus t'aime ? Personne ne lui avait jamais dit qu'il était aimé par qui que ce soit, ce garçon, c'était vraiment un pauvre type, hein. Un peu handicapé mental sur les bords, mais pas trop, je dirais, un QI un peu léger, il ne savait pas lire, et c'est donc l'ancien SDF lui a donné une Bible, enfin que je lui ai donné en fait. Il m'a demandé une Bible pour donner à un copain, j'ai donné une Bible, il l'a donnée. Et il a appris à lire en annonnant avec l'autre, en annonnant les syllabes, en les déchiffrant. En 6 mois, il a commencé à lire la Bible et il a lu toute la Bible, du début jusqu'à la fin, en quelques années. Ben, si vous voulez, c'est possible. Un type comme ça, un peu limité, dire ben ça, il y a des grands costauds au point de vue physique et puis des gens un peu moins costauds. Bon, ben, au point de vue de l'intelligence aussi, lui est un peu moins costaud. Mais quand même, vraiment, il a pu découvrir dans la lecture de la Bible quelque chose qui l'a bouleversé, qui l'a transformé, qui l'a pu avancer. Donc voilà, le Jacob, si vous voulez, c'est pas limité. c'est pas limité à, je sais pas qui, grand spécialiste à Origène ou à Saint-Augustin, non, c'est pour tout le monde, voilà. Donc là, au début, c'est pas mal, hein, il se dirige vers le puits, et alors il commence à faire des reproches aux bergers, parce que les bergers travaillent pas assez, je sais pas pourquoi. C'est peut-être l'idée, voilà, hein, c'est qu'il faut quand même... Il faut quand même faire son boulot. Alors, ils sont rentrés trop tôt, ça ne se fait pas normalement. Hein. Ils sont rentrés avant la fin de la journée. Ils se sont dit, oh, bah, les brebis ont déjà bien assez mangé comme ça, on va rentrer. Alors, il dit, bah, c'est un peu... C'est pas terrible quand même. Il les gronde. Au verset... C'est... verset 7, voilà. Il dit, c'est pas terrible. Hein. Bon, verset... Au verset 9, il voit arriver Rachel, hein, donc la fille de son cousin, hein, du frère de sa mère. Hein. Oui. Il voit arriver Rachel et tout d'un coup, je veux dire, bouleversé par la beauté de cette fille. C'était une gaminette en fait, probablement. Hein, puisque il semblerait qu'une fille comme ça ne pouvait pas, si elle était déjà... adolescente, on ne l'aurait pas envoyée garder les troupeaux comme ça, toute seule. Elle serait restée à la maison. Oui. Par contre, si c'est une gaminette, elle pouvait aller garder les moutons dans la nature, donc elle était sans doute gaminette. Vous voyez, je ne sais pas, 8-10 ans peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça. Et donc, il est quand même bouleversé par la beauté de cette gamine et il se dit, voilà, faudra que ça soit... Enfin, je veux dire, c'est mon rêve, ça soit ma femme, en fait. Mais bon... Il débouche la bouteille et il fait boire tous les troupeaux. Alors, c'est aussi peut-être une vocation qui nous est donnée, hein, c'est-à-dire voilà, transformer avec la force que donne l'amour, hein, voilà, d'être capable d'être source pour les autres, hein, d'être capable plutôt d'ouvrir la source pour les autres. Parce que c'est pas lui qui donne à boire, hein. Il débouche la bouteille et après tous les autres peuvent y aller. Et ça, finalement, c'est peut-être un peu le rôle de l'Église aussi, si vous voulez. Ou notre rôle à nous, si on arrive à témoigner de la foi, ben, c'est que les autres, plutôt que donner à boire aux autres, ben, que les autres puissent aller boire par eux-mêmes, les libérer. Parfois, l'Église, elle a pu dire, voilà, écoutez, venez à moi, c'est moi qui vais vous donner à boire. Non, là, plutôt, notre rôle, c'est de donner l'autonomie aux gens et qu'ils puissent boire par eux-mêmes, comme là. Donc là, c'est super. Mais au verset 11, hein, donc Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et il pleura. Alors ça, c'est une énigme. On ne sait pas pourquoi il se met à pleurer. Alors pleurer de joie, peut-être.
Oui, il ne l'a pas vécu longtemps.
Alors, il l'avait jamais vu, en fait. Hein. Il n'avait jamais venu là. Peut-être qu'il est content parce qu'il arrive à son but. Il se dit, voilà... Hein, donc, Rebecca l'avait envoyé, disant, bah, tu vas aller chez mon frère, et là-bas, tu vas prendre une femme, et comme ça, tu vas rester là-bas quelque temps, et puis tu vas revenir, ton frère sera calmé, il ne va pas te tuer. Donc, il se dit, finalement, peut-être j'ai atteint mon but, et donc ça va marcher. On ne sait pas. Mais on peut dire aussi, c'est que finalement, il pleure, parce que dans la suite, ben, on va voir qu'il va... C'est un peu prophétique, on va voir qu'ensuite, ben, il va se laisser diminuer, finalement. Hein, et quoi ? Il va être piégé, il va être roulé par Laban, qui est un sacré sournois, finalement. Et puis, il va perdre... Autant là, dans la première partie, vous voyez, il fait des trucs, il peut quand même ouvrir le puits, il donne à boire, il dit aux gens, ben non, il faut quand même travailler, il ne faut pas simplement s'en fiche. Hein. Parce que bon, les mauvais bergers, ça c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez les prophètes. Hein. Les mauvais bergers, c'est une image des gens qui maltraitent des mauvais rois, des mauvais prophètes, des mauvais parents, peut-être aussi. Donc voilà, il remet un peu dans le bon sens, dans le sens de la vocation, mais dans la suite du texte, il va être un peu nul. Peut-être c'est ça aussi, je ne sais pas. Mais bon, c'est un mystère, on ne sait pas non plus. Non, c'est pas tout. Il y a des interprétations diverses pour ça. Peut-être on peut se dire aussi des gens qui disent c'est parce qu'en fait il se dit je veux cette fille, mais il n'a pas de dot à apporter, donc il se dit mais comment je vais faire, ça va être mal parti. Voilà, donc il rencontre Laban, et puis au verset 16 et 17 il se dit je vais travailler chez Laban. Donc, il est question un peu de salaire, peut-être.
Mais la durée qui est renouvelée, le laps de temps des 7 ans qui reviennent, ça a un intérêt symbolique?
Ben oui, c'est que 7 ans, effectivement, vous avez raison, c'est un chiffre rond dans la Bible, c'est le temps de la création. Pourquoi? Parce que, si vous voyez, le chiffre 7, c'est un chiffre rond, parce que... En Babylonie, voilà, il comptait à base 12, en fait. Il comptait à base 12 parce que... Ben, nous, on a tendance à compter en base 10 parce qu'on a 10 doigts, donc on compte sur nos doigts. Mais vous avez remarqué, quand on compte les retenues avec ses doigts, les 5 premières retenues, on compte sur la main gauche, c'est assez bien, quoi. Ensuite, on peut encore compter 6, 7, 8. Bon, mais après, quand on arrive dans les retenues de 8 et de 9, il faut qu'on lâche le stylo pour 9 et ça ne va plus du tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les Babyloniens, ils comptaient pas en base 10, ils comptaient en base 12. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient avec le pouce sur les doigts de la main, les phalanges de la main gauche, vous voyez? Donc on indique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en indiquant avec le pouce sur les 4 fois 3, comme les 4 phalanges des 4 doigts. Et ces 4 phalanges, ces 3 phalanges des 4 doigts, si vous voulez... Le 4, ça représente un peu le monde géographique, le monde, la vie en ce monde, le monde horizontal, si vous voulez, les 4 points cardinaux, l'Orient, l'Occident, le Septentrion et le Midi, voilà, je ne sais pas comment. Quoi ? Méridional, voilà, septentrional, le méridion, le midi, voilà. Et donc, et puis le 3, c'est souvent une dimension divine, parce que le triangle, c'est la seule figure géométrique stable, de fait. Hein. C'est-à-dire que les charpentes, les vélos, on fait toujours avec des triangles, parce que un triangle, si vous voyez, on prend 3 bâtons, on les attache avec une ficelle en triangle, ça ne se déforme pas. Alors que si on les attache en carré, il faut vraiment une sacrée ficelle pour que le carré ne se déforme pas, ça ne tient pas bien en fait. Donc le triangle, ça a toujours été une figure divine. C'est pour ça d'ailleurs, si vous voulez, c'est que les théologiens, quand ils ont voulu dire Dieu au 2e, 3e siècle, ils se sont dit, il faut qu'il y ait 3 pour le faire la Trinité. C'est dans ce sens-là, si vous voulez. Le 3 était déjà une figure, un chiffre divin, avant même l'invention de la Trinité. Vous comprenez? Donc, le 12, c'est l'union, si vous voulez, ou le 7, c'est 3 plus 4 ou 3 fois 4, c'est toujours l'union du principe matériel, terrestre, et l'union de quelque chose de divin, de Dieu. C'est pour ça que la création se fait en 7 jours. Les 6 premiers jours, c'est la création matérielle, et le 7e jour, c'est le don de la bénédiction, et donc ça parachève la création par la bénédiction, par le spirituel. Et le 6, c'est donc un chiffre mal vu, parce que le chiffre, c'est le matérialisme, si vous voulez. On se contente de la création matérielle, et on rejette la dimension de bénédiction. Donc le 7, c'est un bon chiffre rond, de création. Voilà. Alors, c'est pour ça que le 7, ça exprime un temps de création de l'humain, finalement, dans un sens. Hein. Alors là, pourquoi 2 fois 7 ? C'est-à-dire que il s'est fait avoir un peu le premier coup, il faut une deuxième couche, ou bien ça peut arriver qu'il y ait deux... Voilà, il faut... Le 2, c'est plutôt la parole. Alors pourquoi il faudrait 2 fois 7? Je ne sais pas. Bon. C'est plutôt, il faut plusieurs fois une période de création. Voilà, pour arriver finalement à son... Encore, il y a encore un troisième set derrière, non, pour gagner ces troupeaux, ces brebis, je ne me souviens plus, je crois. Il faut encore qu'il travaille après pour gagner son troupeau. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être 3 fois 7, hein. Je ne sais pas. Voilà, il faut pardonner 77 fois 7 fois. Donc c'est ça, ça veut dire que ce pardon est une création. Et 77 fois 7 fois, ben ça veut dire finalement il y a 3 7. Hein. C'est pareil qu'ici finalement, c'est peut-être ça. 77 fois 7 fois, ça fait 77 fois 7, il y a 3 7 qui interviennent. Donc c'est peut-être c'est que Dieu qui peut pardonner 77 fois 7 fois dans un sens. C'est le pardon de Dieu, c'est la création de Dieu. Voilà, en tout cas, vous voyez, c'est... Bon, ensuite, l'interprétation, chacun peut trouver ce que ça peut vouloir dire pour son interprétation et ce qu'il va faire de ce texte, en quoi ça lui permet de relire sa propre existence. Mais en tout cas, c'est ces choses-là qui sont en jeu, si vous voulez. 7, c'est ce chiffre parfait d'union entre de création et de bénédiction par Dieu, voilà. Et 12, voilà, il y aura 12 enfants, 12 fils, parce que, voilà, c'est un nombre rond, c'est vraiment un peuple... béni par Dieu. C'est pas simplement une famille animale, c'est une famille qui entre, qui s'inscrit dans une bénédiction de Dieu, qui inscrit la bénédiction de Dieu dans un peuple qui vit sur terre. C'est ce genre de choses, en tout cas, hein, qu'il faut chercher. Mais après, voilà, il n'y a pas un seul sens en disant « Ah ben voilà, c'est marqué comme s'il y avait quelque chose de caché, si vous voulez, dans ces images. » Il n'y a rien de caché. C'est des jeux de symboles qui nous sont donnés pour libérer notre interprétation, notre recherche de sens de notre propre vie et de ces textes. Mais il n'y a pas « Ah ben ça veut dire ça. » C'est plus compliqué que ça. Voilà, il y a des pièces, des alphabets sur lesquels qu'on peut composer pour composer des mots. Voilà. Donc Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. En fait, il y a marqué la grande s'appelait Léa et la petite Rachel. Alors c'était une petite parce qu'elle était gaminette à l'époque, d'accord, et que l'autre était déjà plus grande, adolescente peut-être, puisqu'elle n'était pas mariée, hein, je ne sais pas, à l'époque, hein, c'était... ne pas se marier très vieux, peut-être à 15 ans, je ne sais pas quoi. Donc elle était... Et peut-être que Léa, elle n'allait pas dans les champs, elle avait peut-être 12 ans, et puis l'autre en avait peut-être 10, quoi, vous voyez, ou 8, je ne sais pas. Mais bon, grand, ça veut dire aussi, peut-être grand au sens symbolique aussi. C'est-à-dire que Léa, ça va être effectivement, il va y avoir un peu la grandeur hein, à travers... à travers sa capacité, avec son beau regard, avec sa belle façon de voir, avec aussi ce dont elle va être la source, comme fécondité, comme grandeur. Et puis Rachel, elle est petite, ben elle est petite, parce qu'effectivement, on va le voir, elle est incapable d'aimer vraiment, elle est aimée, mais elle n'est pas formidable, a priori. Jacob aimait Rachel, et donc il veut l'épouser. C'est la première fois qu'il y a un mariage d'amour dans la Bible. Avant, ce n'était pas des mariages d'amour, hein, c'était... Mariage arrangé. Isaac, son mariage est arrangé avec Rebecca. Il dit, bon, ben voilà la femme qu'on m'a donnée, d'accord. Et c'est après, on nous dit, que Isaac se met à aimer Rebecca. Mais ça vient qu'après. C'est un mariage arrangé, puis un mariage d'amour. Là, c'est un mariage d'amour. Et bon, c'est assez beau. Hein. D'ailleurs, verset 20, c'est assez beau. Jacob servit, hein. 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. C'est assez beau quand même ça, c'est... non ? C'est une belle...
C'est presque moderne, en fait.
C'est moderne, non ? Oui.
La notion du temps, là, comme ça, le raccourci est très moderne.
Oui. Donc alors voilà, il va travailler et puis en fait, quand est-ce qu'on lui donne Au bout de 7 ans de travail, il dit, bon, ben maintenant, ça y est, c'est bon, j'ai payé mon... j'ai fait mon travail, maintenant, je veux... au verset 21, donne-moi ma femme. Je trouve que c'est quand même, franchement, j'irai vers elle. En fait, ça veut dire qu'il veut avoir du sexe, en fait, si vous voulez. C'est pas là, je dirais, il n'y a plus. Là, je veux dire que l'amour est quand même limité. Hein. C'est quand même... c'est quand même un peu chaud. Hein. Et puis, donne-moi ma femme, quoi.
J'irai vers elle, c'est exactement...
J'irai vers elle, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, bon, ça y est, maintenant, j'ai le droit de coucher. Hein.
Mais 7 ans, ça...
Oui. Non, mais il a eu le temps de, effectivement, de fantasmer. Il est bien chaud. Il est bien chaud. Oui, mais je trouve que ça aurait pu être... Je trouve que ça aurait dû, pu être dit plus gracieusement, quoi. Là, c'est un peu la bête. Hein.
Il en veut la dent, sûrement, de l'avoir fait porter si longtemps. Quoi.
Bah, c'était le contrat. C'est après qu'il va pouvoir en vouloir. Alors, discrètement, bon, ils font la fête. Mais ça, c'est... Ils font la fête et puis, bon, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Peut-être qu'elle était, à ce moment-là, fiancée. Elle était emballée comme un loukoum, non ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que... elles sont recouvertes avec, non ? Avec un tchador ?
Oui,
un voile, je ne sais pas. Enfin bref, on lui dit, voilà, c'est ta femme, c'est ta Rachel. Bon, je pense que quand elle était gaminette, elle se promenait comme ça, il l'avait vue, mais en fait, il ne l'a pas forcément vue. Je ne sais pas si les femmes étaient comme ça. Non, je pense qu'une femme se promenait pas comme ça parmi les hommes, les bergers, dans les champs, c'était peut-être elles étaient enfermées à la maison, tout bien comme il faut. Je sais pas. Hein. Enfin bref, hein, il reconnaît même pas sa voix, je sais pas. Hein, il discute même pas hein, pendant la nuit, j'en sais rien. C'est au matin qu'il se rend compte avec le jour que c'était pas Rachel qu'on lui a refilé, c'était l'aîné. Moi, je trouve, si vous voyez, qu'il y a quand même dans ces textes quelque chose qui est un peu aussi ironique, si vous voyez, dans le récit, hein, c'est que... Quoi ? Ah oui, c'est... Oui, non, c'est dégueulasse, hein, c'est clair. Hein.
La morale, c'est...
Non, mais Laban, c'est...
Non, Laban était pas... Laban était pas très sympa. Non.
C'est immoral, oui, complètement.
Non, c'est immoral. Mais si vous voyez, ça racontait un peu comme un... Moi, je trouve un peu des théâtres de boulevard, si vous voulez. Vous voyez, il arrive au puits, il parle de Laban. Ah, à ce moment-là, il y a Rachel qui arrive. Si vous voulez, on sent le... C'est du Corneille, quoi, si vous voulez. Hein. On en parle, et puis à ce moment-là, on frappe à la porte s'ouvre, et c'est justement machin qui arrive, si vous voulez, non ? Et ici, c'est pareil. Voilà, il se dit, voilà, enfin, j'ai ma femme. Alors, il arrive tout content. Il lui saute dessus, une grande nuit torride. Il se dit, au matin, il trouve que c'est l'autre. C'est oui, mais c'est du... C'est, non ? C'est du vaudeville, non ? Vous ne trouvez pas ?
Ah non, mais c'est amusant, la Bible, comme ça.
Ben un peu, quoi, c'est non.
Et alors, le sens de la démarche de Laban, est-ce que, en fait, elle est dénoncée comme une tromperie ? Alors, quel intérêt il a eu à fourguer l'aînée, alors que c'était la cadette qui était aimée ?
Ben, parce que, voilà, elle était plus âgée, et puis bon, peut-être qu'elle n'était pas bien belle, quoi.
Elle doit être mariée la première.
Elle devait être mariée à la première, mais pourquoi elle n'était pas encore mariée ? Il aurait pu la refiler à quelqu'un d'autre et puis donner... Mais non, c'est qu'en fait, elle n'était peut-être pas casable. Hein.
Non, mais c'est la tromperie qui est...
La tromperie, oui. Alors, il y a des gens qui disent que c'est le retour de Manivelle, parce que comme Jacob, il a eu la bénédiction par tromperie, eh bien, pan, ça lui revient sur le coin de la figure quelques années plus tard. Et donc, c'était un peu pour rattraper, peut-être, il y a des gens qui disent ça, moi, j'en sais rien. Après, comme je vous dis, on peut le comprendre comme on veut, si vous voulez. Hein. Mais il y a des gens qui disent, ben voilà, en fait, c'était juste que Rebecca se débrouille coûte que coûte, même par la tromperie, pour que ce soit Jacob, c'est-à-dire la dimension spirituelle de l'homme, qui l'emporte sur l'animal qu'est Ésaü. Bon. Mais quand même, au sens moral, la Bible ne voulait pas laisser passer... l'idée qu'on puisse, comme ça, la fin justifie les moyens, et puis donc on va tromper Isaac sur la bénédiction, se déguiser, profiter du fait qu'il ne voit pas clair pour le tromper, de dire ça, c'est pas possible. Et donc, quelque part, avec ce Laban qui vient tromper Jacob après, ça veut dire, ben écoutez, peut-être que la fin justifie les moyens. On aurait pu penser ça, ben non, en fait. Parce que ça nous revient sur un coin de la figure. Et quand on agit par tromperie, on trouble l'ordre du monde. Et même si à court terme, ça semble un bon plan, ben, il y a quand même quelque chose dans l'ordre du monde qui est troublé et ben, ça met le bazar. Voilà. Et que ça va revenir voilà, par un coin imprévu, surprenant, mais ça va revenir sur le coin de la figure. On ne sait pas. Il y a des gens qui disent ça.
Ça rétablit un peu la morale.
On pourrait, voilà, il y a des gens qui disent ça rétablit la morale. Oui.
Oui, c'est ça.
Bon.
Exactement.
Alors cela dit aussi, bon, c'est vrai que, il s'est fait avoir, mais finalement, dans un sens, il dit, bon, bah, c'est comme ça, bon, bah, alors comment je vais faire? Il fait contre mauvaise fortune, bon corps, il continue à aimer sa Rachel, donc il dit, bah, je vais travailler 7 ans de plus. Là, Laban est quand même un peu plus sympa, il dit, bon, bah, je te fais confiance, donc il donne, il a 8 jours de noces avec Léa, et après il rempile directement sur les nuits de noces avec Rachel. C'est donc, vous voyez, un sacré chaud lapin. Voilà. Mais finalement, ça veut dire aussi, peut-être, cette histoire, hein, c'est, voilà, faut pas le prendre forcément comme ça, comme une publicité pour la polygamie, mais l'idée qu'il faut peut-être épouser ces deux dimensions, hein, une dimension donc... alors oui, l'interprétation de ces Léa et de cette Léa et de cette Rachel, il y a des gens qui disent que Léa c'est la dimension de la vue, donc c'est la dimension de étudier la Bible, la vertu, le travail, etc. Ben, c'est peut-être a priori pas ce qu'on préfère dans l'existence, on préfère la vie joyeuse et tout, mais il faut les deux, voilà, hein. Il faut travailler 7 ans pour avoir Léa, ben, à travers Léa, il y aura une vraie fécondité aussi. Et puis la vie joyeuse, celle qu'on aime, celle qui est jolie, qui est belle, bon, ben, c'est joyeux. Mais en fait, c'est un peu futile, si vous voulez. Mais bon, il y a une petite fécondité quand même par là. Et il ne faut pas négliger non plus l'une et l'autre. Il faut les deux. Voilà.
Il y a une troisième dimension, il y a Mila aussi.
Alors il y a les deux servantes, hein, qui sont. Il y a les deux servantes aussi. Hein, il y a les deux autres. Les deux servantes, hein, de Léa, la servante de Léa, la servante de Rachel, toutes les deux vont enfanter aussi. Il y a 4 femmes là en fait qui vont donner des enfants.
Parce que là, oui, là c'est pas encore plus.
Jacob à la fin a 12 enfants.
Il a 12 garçons et une fille. Ben, c'est 12 et demi, parce qu'il y a une, si je puis dire, parce qu'il y a une fille. Il y a 13, en fait. 12 garçons et une fille. Oui, non, voilà. Mais nous, on dit, il y a, voilà, il y a 12, les 12 tribus d'Israël. Donc, en fait, si vous voulez, il y a 12 tribus. C'est-à-dire que dans les 12 fils, ça va faire 11 tribus. Parce que Lévi, hein, qu'on va voir arriver... Ça ne donne pas une tribu, parce que c'est une tribu à part, elle s'occupe du temple, ça va être les prêtres, ils n'auront pas de territoire dans Israël. Donc ça va donner 11 tribus, et puis c'est je ne sais plus lequel, hein, dans les fils de Rebecca, les fils de Rachel, qui va en donner 2. Hein. C'est Joseph, je pense, hein. Non, je ne sais pas. Joseph, il y a 2 fils de Joseph. Ce n'est pas Joseph qui va faire une tribu, c'est les 2 fils de Joseph qui vont faire 2 tribus, en fait. Donc Joseph va être dédoublé, ça fera 2 tribus, et finalement ça fera 13 tribus, en fait.
Et moi ce qui m'intéresse, c'est Bila et Zippa. Qu'est-ce qu'elles
représentent? Ben, c'est les servantes, donc... ouais, ça je sais pas très bien. Leurs noms veulent pas dire grand-chose de passionnant. Donc elles sont là un peu par procuration pour prolonger la fécondité des deux premières. J'ai l'impression que, si vous voulez... les 4 premiers enfants, c'est les plus précieux, j'allais dire, parce que les noms sont vraiment du sens. Donc les 4 premiers garçons, c'est les enfants, les fils de Léa. C'est le plus important. C'est là qu'il y aura vraiment une fécondité importante. Ensuite, il va y avoir 4 enfants par les servantes. Hein. Alors, c'est pas inintéressant aussi. Hein, donc, on va voir les noms un peu. Hein. Le premier, c'est Ruben. C'est autour de la vue. Et effectivement, Léa dit « L'Éternel a vu mon humiliation » parce que, hein, au verset 31, « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, qu'elle était même haïe en fait. » Et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Donc c'est l'idée de Dieu qui s'approche des petits, des faibles, des pas aimés. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans l'idée du Christ, hein, d'aller vers ceux qui ne sont pas aimés. Alors c'est pas que l'Éternel bénit particulièrement les losers. Hein, c'est pas ça du tout. Hein, c'est l'idée... Il y a peut-être un sens moral, hein, c'est-à-dire d'aller vraiment de... d'aller vers ceux qui ne sont pas aimés, qui sont qui n'ont pas de chance, qui sont, hein, c'est pour les... Et puis il y a aussi l'idée du retournement, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les choses en profondeur, les choses pas évidentes, pas juste le clinquant en surface, mais aller dans la profondeur des choses, dans ce qui n'est pas évident, dans ce qui est petit, dans ce qui est méprisé, parce que c'est là qu'il y a la profondeur de sens, vous voyez ce que je veux dire ? Dans le pas évident, dans la chose, dans la profondeur de l'être, si vous voulez. C'est là quand même que ça se trouve. Donc, Ruben, c'est Léa qui est fière, qui dit « Voyez mon fils ». Mais elle dit « L'Éternel a vu », en fait. Donc ça tourne autour de la vue. Et alors, bon, l'interprétation souvent qui est donnée, c'est voilà, cette interprétation importante, parce que Léa, c'est celle qui a de beaux yeux, et donc c'est l'idée du voir qui est importante. Ensuite, Siméon, c'est le deuxième, c'est autour de l'écoute, hein, parce que « Shema Israël », c'est ce mot, hein, de l'écoute. L'Éternel, voilà, m'a entendu. Hein, c'est ça, hein, que dit Léa, et effectivement, c'est l'écoute. On sent Dieu qui s'approche, si vous voulez. Dieu voit de loin, et ensuite il écoute. Parce qu'on peut, si vous voulez, voir 1000 personnes d'un coup, on peut en écouter qu'une à la fois. Donc l'écoute, c'est plus personnel, c'est plus... La vue aussi, c'est... Ouais, un peu général, en surface, alors que l'écoute, c'est on écoute, on cherche du sens, on cherche, voilà, donc c'est un peu plus profond, vous voyez. Quoi ?
C'est plus lent d'une élaboration.
Ah, c'est plus, voilà, c'est ça.
La vitesse de la lumière est plus son, ça n'a rien à voir.
Voilà, c'est plus lent aussi, voilà, c'est... oui, c'est ça, c'est un peu plus, voilà. Donc c'est 30 fois plus lent, je ne sais pas combien, ou plus que ça, 300 fois. 300 000 km à la seconde, et le son, c'est 300 mètres à la seconde. Ah oui, c'est une sacrée différence. Hein. C'est un million de différence. Hein. Voilà. Le troisième, c'est Lévi, ça veut dire l'attachement. En disant, oui, mon mari s'attachera enfin à moi. Ben non, toujours pas. Toujours pas. Alors, cela dit, bon, il se répartit bien, hein, il va coucher chez l'une, chez l'autre. Hein. Alors après, on va voir, elles vont se être en rivalité pour le nombre de nuits que va leur accorder leur étalon pour essayer d'être dans la fécondité. Mais là, il a l'air de bien se partager, mais toujours, il n'aime pas Léa, malheureusement. Alors que c'est elle, vous voyez. Donc, à travers ce travail du regard, on pourrait dire, ce travail de l'étude que représente peut-être Léa pour nous, il y a l'idée de voir... de sentir que l'Éternel nous voit, il y a l'idée d'écouter, et puis de sentir que l'Éternel écoute notre prière, notre désir, notre recherche. Et puis Lévi, c'est l'attachement, ça représente effectivement, hein, il va être dans la religion, c'est-à-dire dans la relation à Dieu, dans l'attachement, dans la relation à Dieu, dans l'accompagnement, dans le lien. L'attachement, oui, c'est troisième dimension. Ensuite, Judas, c'est... c'est la louange, hein, et elle dit, quand elle arrive à Judas, elle dit « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel ». Alors on ne sait pas, peut-être qu'elle a abandonné finalement, hein, de se dire « Je vais acheter l'amour de mon mari à coup de fécondité ». Et elle se met dans la louange, et elle cessa d'enfanter, parce que finalement, elle dit « Ben finalement, il n'y a rien de mieux que ça, et je ne pourrais pas faire mieux ». Donc elle se dit « Voilà, ce coup-là, c'est bon ». On ne sait pas. En tout cas, ces quatre dimensions, voilà, ça représente, hein, pour beaucoup de lecteurs de la Bible, ça représente quatre dimensions essentielles. Hein, donc, de la vue, de l'écoute, de l'attachement et de la louange, quatre dimensions. Hein, donc,
Alors Jacob est absent dans la dénomination des enfants.
Voilà, il est complètement absent.
C'est la mère qui donne le...
C'est Léa, oui. Voilà.
Est-ce que c'est courant ?
Ben, c'est pas courant. Normalement, c'est les hommes qui donnent un peu le nom. Voilà. Mais c'est là qu'on voit que finalement, les femmes sont indispensables dans cette affaire. C'est Léa qui est intelligente, qui insiste sur les bonnes dimensions de l'humain, de la fécondité, hein, à travers ces quatre noms qu'elle donne, qui sont magnifiques, et qui sont chaque fois double sens. Hein, l'Éternel a vu, et puis c'est l'idée, voyez le Fils appelé à voir. Hein, l'Éternel a entendu, et puis c'est, donc ça représente l'écoute, l'étude aussi. Hein. Donc c'est tout, voilà, c'est... Non, c'est Léa qui est super, là.
Juste une, il est marqué, c'est parfois elle donna le nom, et d'autres fois on lui donna, hein, suivant les cas. Alors est-ce que ça veut dire que c'est un problème d'interprétation, ou est-ce qu'il est clair que c'est elle qui donne les noms?
Ben, sauf que juste avant, elle dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel, alors on lui donna le nom de Judas. Donc en fait, c'est suite à ce qu'elle a prononcé quand même. C'est... Ou alors, effectivement, c'est peut-être Jacob qui...
C'est Lévi, on lui
donne. Où on indique, on lui donna le nom de Lévi. Les autres,
c'est elle qui donne, oui. Oui, oui. Non, Judas aussi, hein, on lui donna le nom de Judas. Hein. Mais c'est quand même suite à. C'est quand même suite à ce qu'elle dit elle-même, en fait. Hein. C'est ce qu'elle dit, c'est suite à ce qu'elle dit elle-même. Hein. Donc là, il y a quatre beaux sens, effectivement. Alors ensuite, il y a Rachel, donc, qui est hyper jalouse, et elle dit au verset premier du chapitre 30, Rachel, qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Donc là, vous voyez, c'est pas terrible quand même. Hein. C'est quand même, elle pourrait dire... Mais en même temps, c'est rigolo, si vous voulez, c'est qu'on est souvent comme ça. Hein. Léa, elle pourrait se dire « j'ai plein d'enfants et finalement c'est ma vie quand même, ça fait sens quand même ça, voilà. Hein. » Mais non, ça lui suffit jamais parce qu'elle se sent pas aimée. Rachel, elle est aimée, mais elle dit « j'ai pas d'enfants ». Donc chacune est jalouse de ce qu'a l'autre, chacune est triste de ne pas avoir ce qu'a l'autre. Alors voilà, si vous voyez, on n'est jamais content en fait. Hein.
Bah non, c'est chacune leur manque.
Chacune leur manque et chacune meurt de ne pas avoir ce qu'a l'autre.
Un phénomène de jalousie.
Oui, c'est ça.
Entre sœurs, ça peut exister. Hein.
Bah ça, oui. Oula. mais là, si vous voulez, c'est quand même rigolo. C'est quand même là aussi, je trouve qu'il y a une leçon. C'est qu'en fait, elles pourraient chacune se dire, bon, bah, écoutez, j'ai ce que j'ai et c'est déjà pas mal.
C'est la sagesse, ça. Tout le monde ne l'a pas.
Bah non. Mais là, à travers ça, peut-être qu'on nous y invite à essayer de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide tout le temps. Sinon, on n'a pas fini de pleurer.
Oui,
quoi.
Il y a plein de gens insatisfaits comme ça.
Ah ben oui.
On en rencontre dans la vie.
C'est l'envie.
C'est l'envie, oui, c'est ça.
Oui.
Parce que là, elle dit, voilà, hein, elle porte à Henri sa sœur, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je suis morte, ou je meurs. Ouais, quand même. Quoi? Et puis, c'est-à-dire que voilà, elle place... son existence entière dans la moitié vide. C'est un peu abusé.
Voilà.
On pourrait se dire, bon, j'ai la moitié pleine, c'est à partir de ça que je vais bâtir, et puis je vais essayer, effectivement, d'avancer sur le vide, d'accord ? D'être dans cette démarche, d'être dans un cheminement. Mais là, quand même. Et puis, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Il dit, mais suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? Il est vachement cruel. Moi, je suis désolé, c'est vraiment... C'est dégueulasse. Parce qu'il lui dit, finalement, t'es... c'est pas ma faute, c'était maudit. Vraiment, il met le doigt dessus et il appuie
c'est
fort.
Vrai,
hein.
C'est pas la faute de Jacob si elle ne veut pas avoir d'enfant quand même.
C'est pas sa faute, mais lui dire que du coup, c'est parce qu'elle est maudite par Dieu, elle pourrait dire, bon, bah, je veux dire, c'est pas de chance, ma pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire? Il pourrait être un peu, je veux dire, il pourrait faire preuve d'un peu de compassion et pas dire, bah, c'est parce que t'es maudite par Dieu, ma cocotte, qu'est-ce que j'y peux? C'est pas... Non, enfin, je veux dire, c'est pas tellement encouragé, ça. Il pourrait lui dire, ben écoute, Dieu t'a béni autrement, il t'a donné d'être Claudia Schiffer, c'est déjà pas mal, je veux dire, puis en plus t'as quelqu'un qui t'aime, c'est pas mal non plus, et puis ensemble on est heureux, et puis voilà, enfin je sais pas, il aurait pu trouver les mots peut-être, non?
Ah oui, pour la calmer.
Elle est pas aimable avec lui non plus, hein, donne-moi des enfants ou je meurs.
Oui c'est vrai,
oui, c'est ça.
Ça peut exciter. Il
réagit sous la colère. Oui, ça l'a mis en colère.
Ça se comprend.
De dire ton amour pour moi, c'est rien, c'est aucune. Hein.
Il a répondu sur le même ton.
Il a répondu sur le même ton, oui. Moi, c'est un peu un prêté pour un rendu, hein, c'est vrai.
Et oui,
Oui, ouais, non, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle méprise son amour, finalement. L'autre, Léa, elle pleure d'avoir l'amour de Jacob, enfin. Vous voulez.
Mais par contre, dans la Bible, Rachel, elle est la seule à mourir en mettant au monde un enfant.
Donc elle meurt en mettant un monde à un enfant, c'est la pauvre, c'est vrai, elle va mettre en monde Benjamin après.
C'est bien après alors. Hein.
C'est au chapitre 35, c'est bien après, entre les deux il y a encore beaucoup d'épisodes.
Au bout de combien d'enfants elle meurt?
C'est-à-dire qu'elle va porter que deux enfants, que juste Joseph et puis Benjamin.
Et elle meurt après.
Elle meurt en donnant, en mettant au monde Benjamin. Et donc elle va mourir en exil finalement. Et alors là... finalement, elle ne sera pas enterrée avec, elle va pas être enterrée avec les autres, c'est-à-dire avec Abraham, Sarah.
Son tombeau existe, il paraît. Son tombeau existe.
Et ça existe, il paraît, son tombeau. Oui, oui.
Elle
oui.
meurt en exil ou
d'autres. Elle meurt en exil, je ne sais plus où, un peu loin. Elle va meurt en exil.
Elle a une triste fin, quand
même. Oui, c'est triste, bien sûr. Hein.
Elle est la seule amour.
Elle va être enterrée sur le chemin qui mène à Ephrata, c'est Genèse 35, 19, alors que Léa, elle va être enterrée dans la grotte de Macpéla.
Ça serait pas une punition qu'elle ne rencontre?
Ben non, je crois pas. Mais je crois, vous voyez, je crois pas que ce soit Dieu qui rende stérile, contrairement à ce qui est marqué. C'est pas Dieu qui rend stérile, c'est pas Dieu qui punit de mort, c'est pas comme ça.
On comprend pas très bien pourquoi.
Non, c'est que si vous voulez, c'est que sa façon. Je crois que c'est une leçon pour dire voilà, qu'est-ce qui est fécond en nous et qu'est-ce qui est pas fécond. Il y a une façon, si vous voulez, dans le seul, la seule apparence, et puis dans comme ça, d'être aimé mais de ne pas aimer. Ben là, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est pas fécond dans cette façon d'être. Vous comprenez? Je crois que c'est plutôt ça. Qui n'est pas fécond en soi, donc qui est stérile. Et ça sera que dans ce travail, peut-être, vous voyez...
Tout être humain a besoin d'être aimé, quand même. C'est la chose principale.
Ben oui. Oui, donc je suis d'accord pour Léa qui se sent privée d'amour et qui du coup le cherche. Mais en même temps, vous voyez, Rachel, elle est aimée, mais pour elle, ça ne fait pas sens. Ce qu'elle veut, c'est une fécondité, mais... C'est pas comme ça que ça marche, finalement. C'est peut-être justement... c'est en aimant elle-même, finalement, peut-être. Que, hein, c'est en aimant, c'est en recherchant. C'est ça qui rendrait sa vie féconde.
Elle n'aime pas comme Jacob l'aime.
Elle n'aime pas comme Jacob l'aime, non. Elle s'aime elle-même, en fait.
Oui, elle est égoïste, alors, très...
Ben, c'est un peu l'impression qu'on a, quand même, à travers ça, si vous voulez.
Peut-être qu'elle va être féconde parce que sa sœur l'est.
Oui, puis à l'époque, si vous voulez, c'est vrai que la valeur de la femme, c'était le nombre d'enfants. On demandait à un homme, on demandait qu'est-ce que tu fais comme métier, et à une femme, on lui disait combien vous avez d'enfants.
Oui, ben ça, oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, ça a évolué quand même, heureusement.
Oui. Les enfants étaient une source de travail.
Donc, c'est vrai que c'était un peu ça. Hein. Oui. Et donc... Il se tourne vers les servantes pour faire des enfants. Donc ça se faisait à l'époque. Hein. C'était pareil, c'était des mères porteuses un peu. C'est vrai que c'est assez choquant hein, dans notre façon de voir les choses, bien sûr. Et là, Jacob est un étalon. Hein. On lui dit, voilà, cette servante, il va me faire un enfant avec. Bon, pas de problème. Et donc, il va y avoir deux enfants par la servante de Rachel, Dan et Nephtali. Alors c'est un peu curieux, Dan ça veut dire le juge, et puis Naphtaline, c'est celui qui est le tortueux, le détour, donc vous voyez c'est un peu ambigu, vous voyez ce que je veux dire. Il y a plutôt ce qui est juste, et puis il y a plutôt ce qui est tortueux, donc vous voyez c'est un peu... Ensuite Léa, elle va en avoir deux autres enfants par sa servante, c'est la chance et le bonheur, Gad et Aser. C'est plutôt sympa. En même temps, bon... Par rapport aux valeurs spirituelles qu'exprime le premier dans la qualité d'être, si vous voulez, c'est quand même plus extérieur. Ensuite, ça y est, ils en sont à 8 enfants, et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Hein. La suite, c'est encore plus cabreux, ça va être une histoire de mandragore. Alors le mandragore, c'est un peu le Viagra de l'époque, en fait. Hein. Quoi ? Pomme d'amour, un filtre d'amour, mais c'est plus que ça, si vous voulez, C'est voilà, ça rend fécond, c'est plus un... C'est, ouais, c'est un peu du... Voilà, c'est ça, du Viagra, d'une sorte...
Viagra, quoi, sous un autre nom.
C'est ça, hein. Ça a toujours existé, un peu ces plantes aphrodisiaques, ou ces plantes sources de fécondité, ou ces, ces cultes de la fécondité. Donc, ça va être plus scabreux, c'est-à-dire que, voilà, ils vont se négocier ça. Où est-ce que c'est Il y a Ruben qui revient et qui a trouvé des mandragores quelque part. Et donc, il y a Rachel qui... C'est au verset 14, hein, se dit, mais donne-moi les mandragores. Et Léa, finalement, c'est là qu'on sent qu'elle aime vraiment Jacob. Elle dit, ben, en fait, moi, je suis pas spécialement attaché aux mandragores. C'est pas avec ça que je compte. C'est pas un vrai amour, si vous voulez. C'est pas une vraie fécondité, ça. C'est pas comme ça pour moi que ça marche. Et donc, elle dit, ben, la mandragore, en fait, tu peux la prendre, ta mandragore, ma mandragore. Hein, c'est pas grave, hein. Par contre, elle négocie une nuit avec... Bon, je ne sais pas très bien comment c'est organisé. Peut-être qu'il y avait un tour, en fait. C'était peut-être une semaine, ou un mois, une année, j'en sais rien. Enfin bref, il négocie, elle négocie un tour des talons. Et puis, elle va avoir encore des enfants, donc. Hein, elle va avoir encore des enfants, ce qui est... Plutôt, plutôt pas mal, elle est contente. Donc c'est Issachar et Zabulon. La récompense et l'habitation. Bon, je ne sais pas très bien. Puis elle aura aussi une fille, Dina, la justice. Ça, c'est quand même particulier. Elle a une fille, donc ça, c'est bien. C'est improbable, c'est fini. Voilà, il faut s'arrêter. Donc ensuite, finalement, il y a Rachel hein, qui va être accordée. Dieu se souvint de Rachel et l'exauça, elle le rendit féconde. Donc finalement, quand même... Hein, il y a en définitive, ça je trouve c'est important, voilà. C'est là que la Bible n'est pas trop moraliste, c'est-à-dire que le projet c'était quand même Léa pour Jacob, c'est-à-dire que c'est elle qui est la beauté du regard, c'est la beauté intérieure, c'est là, hein. Et puis Rachel, la beauté visible, la beauté extérieure, l'attirance, c'est le choix de l'homme finalement, bah, Dieu quand même accompagne ce choix de l'homme, il dit ben, finalement ça quand même d'accord, ben, je vais l'accompagner, et ça aura quand même une certaine fécondité. Ça, je trouve que c'est sympa. Souvent, Dieu, vous voyez, c'est la promesse qu'il donne à Jacob, c'est dit, bon, je vais t'accompagner sur ton chemin pour le rendre fécond, même si ce n'est pas tout à fait le chemin qu'a décidé Dieu, ben, Dieu nous accompagne, et puis il cherche à rendre fécond, dans la mesure du possible, même un peu nos délires, dans un sens. Ben, c'est un peu ça, c'est, voilà, Dieu se souvint, et puis il va exaucer, il va rendre donner une certaine fécondité. Alors les grands enfants, ça va être quand même ceux de Léa, les premiers, les quatre premiers. Mais quand même, Joseph, hein, dans la suite de l'histoire, il va quand même sauver le coup. Et donc, il y aura quand même quelque chose d'important là. Il y aura... bon, alors, c'est toujours encore une histoire de jalousie. Mais oui, parce que Jacob, il va... Joseph et Benjamin, ça va être les fils de Rachel. Donc Jacob, il va les préférer, alors que normalement, ben, c'est pas bon. Là aussi, il y aura des jalousies terribles. Alors les premiers...
On cherche l'amour fraternel, c'est la jalousie.
Et donc, il va y avoir la jalousie. Alors oui, et finalement, les fils vont vouloir tuer Joseph, qui est le préféré de Jacob, et ça va, voilà, mais finalement, bon, grâce à Ruben, grâce à Judas, peut-être aussi, ben, finalement, ils vont épargner quand même Joseph, pas le tuer. Et... Bon, mais ça, c'est la suite de l'histoire, que vous pourrez lire tranquillement. Voilà. Donc, merci de nous avoir rejoints, mais on peut toujours discuter, mais il ne faut pas retenir trop longtemps ceux qui doivent éventuellement repartir sur les chemins. Et donc, on se retrouve éventuellement mercredi prochain. Alors, je ne sais plus très bien ce qu'on avait prévu mercredi prochain. Ah, c'est Marie et Myriam, parce que comme c'est le 15 août, eh bien, je me suis mis en communion avec nos frères et sœurs cathos qui fêtent l'Assomption. Donc, pour s'intéresser à Marie et à Myriam, deux Maries qui sont dans les évangiles. Marie, la mère de Jésus, et Myriam, et Marie-Madeleine plutôt. Marie-Madeleine. Marie et Marie-Madeleine.
Ça sera deux Maries.
Ça sera deux Maries. Ah, bravo, Gérard.